Bonjour. Dans la Parshat Matot, la Torah nous raconte que deux tribus, les tribus de Rouven et les tribus de Gad, sont venues chez Moshe Rabbeinu et ils avaient formulé une demande. Étant donné que les Juifs ils avaient conquis le nord de la Jordanie et que le nord de la Jordanie était un terrain qui était très très bien pour des troupeaux. Il y avait beaucoup de gazon, de foin, et les tribus de Rouven et Gad avaient beaucoup de troupeaux. Donc ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, permettez-nous de s'installer dans ce pays en Jordanie, et on se contente, on n'a pas besoin d'avoir une part en Eretz Israël, l'autre côté du Yarden, le côté ouest du Yarden. Quand Moshe Rabbeinu il a entendu ces demandes, il a fait un discours très très fort. Il les a accusés, il a utilisé des mots très forts dans cette accusation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez encore une fois décourager les Juifs de rentrer en Eretz Israël? Ainsi ont fait vos parents. Quand on leur a demandé de rentrer en Eretz Israël, ils essayaient de trouver des excuses pour ne pas être obligé de faire les guerres en Eretz Israël, et ils ont provoqué le malheur. À cause de ça, le peuple juif est resté 40 ans dans le désert. Et maintenant, une nouvelle génération, vous êtes levé, maintenant vous vous êtes levé à la place de vos parents. Tarbut, anashim, chataim, encore une fois une bande des hommes pécheurs, et vous voulez provoquer encore une fois la colère de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, les Bnei Gad ou Bnei Rouven, ils ont entendu tout ce discours. Et après le discours, ils ont dit, « Mais Moshe Rabbeinu, c'est pas que nous ne voulons pas faire les guerres en Eretz Israël, c'est pas que nous voulons décourager les autres Juifs. Non, non, nous sommes prêts à faire la guerre en Eretz Israël, d'aider à nos frères. Ce que nous demandons, de pouvoir installer nos femmes, nos enfants, nos animaux en Jordanie, qu'on nous donne ça comme héritage, on est bien installé, mais nous, les soldats, les hommes, bien sûr, on est tout à fait prêts d'aider aux autres frères de faire la guerre jusqu'à qu'Eretz Israël sera conquis entièrement, et après nous allons retourner dans cette terre-là de Evaryarden. » Bon, après ces discussions, Moshe Rabbeinu, il était d'accord, ils ont conclu que Yeshua Binoun, il leur a fait une condition, d'accord, vous pouvez recevoir la Jordanie à condition que vous faites la guerre, et une fois que vous avez fini la guerre, alors je permets à Yeshua Benoun, je demanderai à mon successeur Yeshua Benoun de effet, définitivement, de vous accorder comme territoire le nord de la Jordanie. Très bien. Quand on regarde cette histoire, à première vue, on a le sentiment que le discours de Moshe Rabbeinu, il est comme s'il est superflu. Comme si Moshe Rabbeinu, il les a accusés à tort. Et on aurait pu poser la question, les Juifs, ils auraient éventuellement pu arrêter son discours en disant, non, c'est pas ça qu'on a voulu dire, bien sûr, on va faire la guerre. Mais non, ils ont entendu gentiment toutes les accusations de Moshe, comment il les a agressés fortement. Et après, ils se sont justifiés en disant, nous avons l'intention de ne pas abandonner nos frères. On apprend de cette histoire quelque chose de très important. Quand un chacham parle, bien qu'il parle fort, il accuse, il ne faut pas le couper. Il faut écouter ce qu'il dit. Le chacham de la génération qui parle, peut-être il y a des gens qui ne sont pas contents, peut-être ils ne comprennent pas la profondeur, peut-être ils pensent que c'est injustifié, les paroles sont exagérées. Mais en vérité, ces paroles font du bien. Les paroles qui sortent de la bouche d'un prophète, peut-être ils ne sont pas toujours compris par tout le monde. Pas chacun y saisit, Pas chacun il a l'honnêteté. Pas chacun y comprend jusqu'à où vont les paroles d'un chacham. Il faut écouter. Et même si dans le cas présent, comme dans l'histoire des Gad et Rouven, peut-être ça ne les concernait pas, ou peut-être oui, peut-être il y avait eu un peu des gens de Gad et Rouven qui pensaient au début de ne pas vouloir faire la guerre. Peut-être ils avaient un peu un doute, ils n'ont pas parlé au début. Nous voulons aider à nos frères de faire la guerre. Ils ont dit, donne-nous, Evara Yarden. Peut-être ils pensaient que si jamais on sera obligé de faire la guerre, on le fera. Mais si jamais on n'évoquera pas ce détail, alors on va se faufiler. Il peut y avoir beaucoup de pensées parmi ces gens-là. Mais Moshe Rabbeinu, pour le moment, il leur est rentré dedans pour les réveiller très fort. C'est bien qu'il a parlé, les Juifs ils n'ont pas osé de le couper. C'est après qu'ils se sont justifiés. Ça c'est Moussar Haskel. Quand le Chacham te parle, écoute, ça te fera du bien. On trouve dans la Gemara une histoire. Un des grands Chachamim à l'époque des Amoraïm, au début de l'époque des Amoraïm, c'est au 3e siècle, il s'appelait Rav. Rav, c'était le neveu d'un chacham qui s'appelait Rabbi Chia. Rabbi Chia, il était élevé en Babylonie. C'est un grand chacham déjà en Babylonie. Et à un certain moment, quand on est à Israël, les grandes guerres, après l'histoire de Bar Kokhba étaient finies, et que les Romains permettaient de nouveau de créer le Sanhédrin, et ils ont permis à Rabbeinu HaKadosh de faire sa grande yeshiva Tveria, où Rabbi, il a, avec les Chachamim, ils ont écrit la Mishnah. Donc Rabbi Chia, il est monté en Babylonie et il s'associait à cette grande œuvre de Rabbi et tous les Chachamim ensemble qu'ils ont fait la Mishnah. Après, Rabbi Chia était un des plus qu'ils ont travaillé pour que chaque enfant juif dans le Klal Israël connaît tous les Shishir Sidre Mishnah par cœur. Alors la Gemara raconte une histoire. Un jour, Rabbi, il était assis, il a dit, Baruch Hashem, je sens que je ne suis pas un homme orgueilleux. Malgré que je suis le président ici du Sanhedrin, je suis le Rosh Yeshiva, je sens que je ne suis pas orgueilleux, je suis prêt à me plier à la volonté de n'importe qui. Baruch Hashem, que je sens que j'ai cette madriga. Je ferai la volonté de n'importe qui. Mais une chose, je ne pourrais pas faire. Une chose, je ne pourrais pas faire. Si jamais je verrai un plus grand chacham venir ici, est-ce que je démissionnerai de ma place pour lui donner ma place? Ça, je ne pourrais pas faire, malgré que ça existait des gens comme ça. Quand mon arrière-grand-père, Hillel HaZaken, quand Hillel est venu de Bavel, en Eretz Israël, après l'histoire de Hanouka, où il y avait beaucoup à l'époque de Hanouka, il y avait beaucoup de massacres, de Chachamim, et quand ça se calmait un petit peu, et les chefs du Sanhedrin Yerushalayim, ce n'étaient pas des super chachamim, c'était un peu des gens moindres parce que les grands chachamim étaient obligés de fuir. Donc cette famille qui avait la Nesi'out, la présidence Sanhedrin est appelée la famille des Bnei Betera. Donc quand Hillel HaZaken est monté de Babylonie à Yerushalayim, et les Bnei Betera, ils ont vu que ce Hillel, c'est un plus grand chacham que eux. Alors ils ont démissionné. Ils ont dit, « Monsieur Hillel, on démissionne. Vous êtes plus capable de tenir cette place ici comme chef du peuple juif. Nous démissionnons. » Et la Gemara nous raconte, ces Bnei Betera, ils étaient vraiment des gens modestes de façon extraordinaire. Alors, Rabbi, il a dit à Rabbi Chia, « Tu sais, je ferai la volonté de n'importe qui, même d'une simple personne, mais démissionner pour laisser quelqu'un d'autre parce qu'il est plus racham que moi, ça c'est déjà quelque chose de trop difficile pour moi. Ça, j'avoue, je n'ai pas cette madriga, sauf pour une personne. S'il y en a une certaine personne de Babylonie qui viendra ici en Eretz Israël Dans ce cas-là, moi, je suis prêt à démissionner. Qui c'est ce Chacham? Il s'appelle Rav Huna Reish Geluta, l'exilarque de Babylonie. Exilarque, ça veut dire le chef de la communauté juive en Babylonie, étant donné qu'en Babylonie, pendant des siècles de siècles, depuis l'époque avant la destruction du premier Beth Amikdash, quand Yechonia est venu avec les 10 000 Talmid et Chachamim, il s'est installé à Babylonie. Depuis cette époque, pendant toute l'époque du deuxième Beth Amikdash, toujours il y avait beaucoup de Chachamim en Babylonie. Alors, il y avait un exilarque, il y avait le chef de la communauté juive. Alors, à l'époque de Rebbi, ce chef, il s'appelait Rav Huna Reish Geluta. Si ce Rav Huna Reish Geluta viendrait ici à Eretz Israël, alors moi, je serais prêt à démissionner et de lui donner la présidence du Sanhedrin. Pourquoi? Parce que Rav Huna, il est de fils après fils depuis David HaMelech. Il fait partie de la famille de David HaMelech. Son père, jusqu'à David HaMelech, il est un Yichus. Par contre, moi, Rebbi, notre famille, la famille de Hillel HaZaken, nous descendons pas d'un fils de David HaMelech, mais d'une fille de David HaMelech. Donc, il a plus de rapport avec David HaMelech que moi, et je suis bien d'accord de démissionner pour lui laisser ma place. Comme ça, il disait Rebbi. À ce moment-là, Rabbi Chia, il était assis devant Rebbi. Alors Rabbi Chia, il a dit, « Maître, je vais vous dire quelque chose. Ce Rav Huna, l'exilarque, il est devant la porte. » Quand Rebbi a entendu ça, il est devenu blanc comme un linge. Pourquoi il est devenu blanc comme un linge? Parce que ça veut dire que maintenant je dois démissionner. Et en vérité, c'est très difficile pour quelqu'un qui est un président de démissionner, laisser quelqu'un d'autre. En vérité, quand il a dit « je suis prêt à le faire », mais entre l'avoir promis de le faire et de le faire, il y a encore une différence. Il est devenu blanc, que maintenant il est obligé de démissionner. Alors Rabbi Chia, il a ajouté une deuxième phrase. Et il a dit « ne croyez pas, maître, que... il est venu ici Rav Huna vivant. » Non, il est mort en Babylonie et ils ont apporté son cercueil ici pour l'enterrer ici en Eretz Israël. Parce que déjà à l'époque, ils avaient la coutume, les Chachamim, ils avaient la coutume pour des personnages importants, on apportait leur cercueil en Eretz Israël pour être enterré en Eretz Israël. C'est le cercueil de Rav Huna qui est venu. Alors quand Rebbi a entendu ça, il n'était pas content de Rabbi Chia. Parce que Rabbi Chia, lui, le fait paniquer pour rien. Il fallait lui dire tout de suite qu'il n'est pas vivant. Il ne fallait pas lui faire un choc comme ça. Et ça c'est un manque d'honneur. C'est un manque de tact. Comment Rabbi Chia s'est comporté avec Rebbi. Alors, Rebbi, il a dit à Rabbi Chia, « Dis-moi, tu peux voir qui est dehors, tu peux voir devant la porte qui est là. » Alors Rabbi Chia, il a compris. Quand Rebbi, il disait à quelqu'un, « Va, ton moi dehors, va devant la porte », ça veut dire, « Je t'exclus. Je t'exclus du Beit HaMidrash. Je ne veux pas que tu viennes. » C'est une espèce de nidouille. Ça veut dire, « Tu te comportais mal, c'est pas comme ça qu'on se comporte. » Eh bien, tu es renvoyé de l'école, je te mets au piquet, tu es renvoyé pour 30 jours. Rabbi Chia, il a compris, il est obligé de quitter la yeshiva pour 30 jours, pour Kapara. La Gemara nous raconte, Rabbi Chia, il avait un neveu. Il y avait plusieurs neveux, deux très grands neveux. Un, il s'appelait donc Rav. L'autre, il s'appelait Rabba Bar Bar Chana. Parce que Rabbi Chia, il avait un frère qui s'appelait Aïbou. Ce Aïbou, il avait un fils qui s'appelait Abba Aricha, et ça, c'est la Amoire Rav. Rav, toujours dans la Gemara, quand on dit Rav, et Shmuel. Alors, la carrière de Rav a été quoi? Rav, il était d'abord né en Babylonie, il est monté en Eretz Israël, il a étudié, Et après, il est retourné en Babylonie. Il a créé une très grande yeshiva, Soura. Et là, on nous raconte, la yeshiva de Soura, c'était la plus grande yeshiva à son époque en Babylonie. Et Rav, c'est un des Amorim qui a eu le plus d'élèves de toutes les Amorim. Maintenant, la Gemara nous raconte. Quand Rabbi Chi a été exclu de la yeshiva de Rebbi, non, il n'avait plus avec personne pour étudier, de ses maîtres, ses copains, il a pris son neveu. Il lui dit, viens Rav, je vais te transmettre la Torah. Et pendant 30 jours, il a étudié avec Rav. Et la Gemara nous raconte, toutes les règles d'études qui existent dans la Torah, Rabbi Chia, il a transmis à Rav pendant ces 30 jours. Rav, il a eu le privilège d'étudier chez son oncle jour et nuit pendant 30 jours. Ces 30 jours que Rabbi Chia, il était renvoyé par Rebbi. On voit ici quelque chose d'extraordinaire. Si Rav, il a pu devenir le plus grand Rav de Babylonie, c'est grâce à la Torah qu'il a étudié en Eretz Israël. Mais quel était le moment, le meilleur moment pour Rav d'étudier? À quel moment il a eu un Rav personnel avec qui il a pu demander les questions les plus profondes, comment fonctionne le Limoud? Quel était le moment exceptionnel où il a profité le plus? C'était les 30 jours qu'il a étudié chez Rabbi Chia. Et pourquoi Rabbi Chia il avait le temps 30 jours? C'est parce qu'il était exclu par Rebbi. C'est le même phénomène. Quand un chacham s'énerve contre quelqu'un, c'est un bon moment de recevoir une aide du ciel. Les cris, la colère d'un grand chacham sont bénéfiques pour la personne. Le cri que Rebbi a fait sur Rabbi Chia, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Alors, ils ont provoqué que grâce à ça, Rabbi Chia a formé son neveu qui a après transmis la Torah en Babylonie. On trouve dans la Gemara souvent ce phénomène. Une fois, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Yeshua, Rabbi Eliezer, on connaît l'histoire de Yavne, où il y avait une machloquette entre Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. Rabban Gamliel a dit quelque chose, Rabbi Eliezer a dit quelque chose, Rabbi Yeshua, et les Chachamim n'étaient pas d'accord avec le comportement de Rabban Gamliel. Ils ont dit à Rabban Gamliel, on vous demande de démissionner pour un certain moment, et Rabban Gamliel il a démissionné. Quelle était la suite de l'histoire? La suite a été, comme Rabban Gamliel était remercié, alors ceux qui étaient nommés, c'était Rabbi Lazar ben Azaria. Et quand Rabbi Lazar ben Azaria a été nommé le chef du Sanhedrin, il avait une autre politique que Rabban Gamliel, et il a permis à tous ceux qui voulaient venir au Shiur de rentrer au Shiur. Rabban Gamliel, il avait une chita qu'il ne fallait pas laisser tout le monde étudier. Il fallait vérifier un par un qui vraiment se comporte de façon digne pour pouvoir étudier chez les grands Chachamim. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait une chita, il faut laisser le maximum des gens étudier. Alors quand Rabbi Eliezer ben Azaria est devenu le chef, alors ils ont fait rentrer tous les élèves, on a ajouté 400 bons au Beit HaMidrash. Nimtza, que la Torah, elle se propageait beaucoup plus pendant cette époque de Rabbi Eliezer ben Azaria qu'à l'époque de Rabban Gamliel. On voit que cette machloket entre Rabban Gamliel et Rabbi Yeshua, cette machloket en fin de compte, elle avait provoqué qu'il y a plus de Torah après. Des fois, on croit des chachamim qui se chamaillent. Quel malheur, il faut savoir. Des fois, malgré que ça ressemble comme un malheur et on a de la peine qu'il y a des machloquettes, en vérité, une machloquette qui est le Shem Shamayim, elle a des bons fruits et c'est pas comme certains croient que ça diminue la Torah, ça augmente encore la Torah. Shabbat Shalom.